Salut à toi camarade, c'est Émission Censurée avec le Dave derrière le micro à la jactance et le Lucas derrière les potards à la technique. Vous êtes bien à l'antenne, chers auditeurs, chères auditeuses d'RCN, Radio Caraïbes Nancy. On est en direct et ce soir, vous l'attendiez avec impatience. Chers auditeurs, chères auditeuses, donc, et ben la voilà, rien que pour vous, la deuxième mouture de nos années folles, petit tour d'horizon sur deux ans, de 1988 à 89, pour faire encore un peu plus connaissance avec les piliers et les pionniers du mouvement alterno. Hip-hop, Momo, et le fait que ce soit le 1063e jour d'occupation sarkozienne n'y changera rien. Et la foule est en délire. Merci. Ah, oh, vous êtes gentil. Je sais que vous l'attendiez, mais à ce point... Bienvenue et merci donc d'être à l'écoute d'Émission Censurée, les amis. Alors, on vient de s'écouter La Mano Negra, qui nous chantait le morceau Mano Negra, issu de leur premier album Pachanka, sorti en 88 chez Boucherie Productions. Tout ça pour vous annoncer un petit peu le thème de ce soir. Donc, vous l'attendiez nombreuses et nombreuses, j'espère, cette deuxième épisode de nos années folles. Alors, on va reprendre en 88, là où on avait fini la précédente émission sur le sujet, et on va tâcher de pousser jusqu'en 89. Deux ans, ça peut paraître court, mais les résumés en une heure à la radio, c'est quand même pas évident. D'autant que 88 et 89 sont vraiment deux années charnières dans le mouvement alterno, mais pas que. Pas que dans le mouvement alterno, je veux dire. Petit rappel historique pour se remettre dans le bain de l'époque. Alors, prenez note, hein, attention. C'est toujours la guerre froide, mais plus pour très longtemps du tout. C'est la fin de l'ère Reagan, 89. Donc c'est les deux mandats Reagan, à qui va succéder Bush père. Pendant ce temps-là, Gorbatchev continue dans la perestroïka, avant de se la reprendre dans la tronche. Les troupes soviétiques se retirent enfin d'Afghanistan. C'est aussi le déclenchement de la première intifada en Palestine. En ce qui concerne la France, Mitterrand qui s'y recolle pour ses temps, Chirac et Pasqua, out. La cohabitation est morte, bon débarras. La nouvelle élection de Mitterrand ne laisse plus d'illusions comme en 81. Le parti communiste se délite de plus en plus, pendant que le Front National se garnit de pire en pire, ceci expliquant certainement cela. Enfin, quand il ne s'amuse pas à humilier Rocard, son nouveau Premier ministre, le vieux, vous savez qui grince comme avec les guignols, prépare le grand barouf du bicentenaire de la Révolution française, avec grand défilé de Jean-Paul Goude sur les Champs-Élysées, s'il vous plaît, pour mieux vider le bicentenaire de son contenu. Maintenant qu'on s'est tranquillement remis dans le contexte, on reprend donc où on s'était arrêté avec La Mano. Donc La Mano, cette magnifique ouverture sur le monde et surtout sur le monde des pauvres, des indigents, des misérables, bref, des exploités de la terre entière. Parce que si le rock alternatif absorbe tout comme une éponge et s'enrichit culturellement, pour ce qui est du Grisby, c'est plutôt la galère et même carrément. Et qu'est-ce qui peut expliquer socialement l'apparition d'un truc comme le mouvement alterno, à savoir musical, jeune, libre, libertaire, multiracial et radicalement antifasciste? Alors, je vous pose la question. Eh ben peut-être tout bêtement, parce que comme le dit si bien un des membres de la Mano justement, je cite, « On était tous au chaume du, on n'avait que ça à foutre ». Donc, c'est la grosse galère. À l'époque, pas d'intermittence du spectacle pour les icos indépendants. Le statut existe, depuis le Front Populaire en 36, pour les gens du cinéma uniquement, et depuis 69, pour les artistes interprètes et musiciens professionnels. D'autres la touchent donc, cette intermittence, mais pas cette troupe de jeunes chômeurs et galériens passionnés de zik, au point de vouloir y consacrer un bout de leur vie. C'est même plutôt Hérémy pour tout le monde, Hérémy d'ailleurs, créé la même année, 88, et qui tombe très bien puisque ça va permettre aux anciens comme aux nouveaux de continuer l'aventure la tête dans le guidon. Comme par exemple, à Montereau, en Seine-et-Marne, dans la région parisienne, ou plus précisément dans la banlieue rouge de Montereau, où naissent les rats, dans une cave pérave d'une cité populaire et ouvrière. Voici donc, rien que pour vous, après tout ce blabla, un excellent morceau des rats qui était fortiche pour jacter de la galère, des caves péraves et de la dope qui y circulait. Bah ouais, c'était leur quotidien, la pauvreté, la rage et la cam aussi. C'est parti, de Barbès à Belleville. Yeah. Voilà, de Barbès à Belleville, c'était un morceau des rats issu de leur maxi 45 tours C'est bien parti pour ne pas s'arranger, sorti en 88 chez Dansteria. Alors les rats, ce que je peux déjà vous dire sur eux, c'est pas la première fois qu'on en passe dans Émission Censurée, mais la première fois qu'on en passe dans Nos Années Folles. Donc voilà, petit explicatif concernant les rats. Donc c'est leur deuxième disque à cette époque-là. Donc c'est le maxi 45 tours, C'est bien parti pour ne pas s'arranger. Le premier album, lui, date de 86, deux ans plus tôt. Il s'appelle Tequila. Donc les rats viennent de Montereau et ils ont existé, ils se sont formés en 83 déjà et ils se sont déformés, si je puis dire, en 95, ce qui nous fait quand même 12 piges d'existence. Donc les rats, c'est un groupe qui montre, c'est un des groupes, pardon, qui montre le plus brillamment, si ce n'est le plus bruyamment et tout, ce qu'est le punk rock alterno de l'époque, à savoir, je cite, du punk rock bien punk ou du punk rock bien rock. Dixit les rats eux-mêmes d'ailleurs. Bref, entre punk et rock, il y a le choix. Et même si c'est pas autant métissé que la Mano ou les Satellites par exemple, le mélange des genres n'empêche pas que chacun de ces genres ait une identité propre et particulière, des influences spécifiques, des codes et des règles musicales strictes, un esprit et un cadre précis. En somme, chacun de ces genres est aussi une fin en soi, ce qui n'empêche pas non plus l'évolution du genre lui-même. Bref, l'IRA, ça envoie méchamment le bois, les concerts sont explosifs et les paroles sans concession, sarcastiques et sombres, et même violemment réalistes. Du coup, on reste dans le même genre, bien rock, bien punk, mais quand même en beaucoup plus léger et yéyé, et même gentiment naïf et surréaliste, avec les Vampas yéyé, yéyéyé. C'est un peu le bordel à la fin. Voilà, morceau d'anthologie des Vampas, yéyé, issu de leur... attends, que je regarde, de leur quatrième disque, mais leur premier véritable album. Donc, l'album s'appelle Chaud, Sale et Humide. Ils ont sorti avant un 45 tours Vampas en 85, J'ai quitté mon pays, 45 tours aussi en 88, et un maxi Tutti Frutti en 87. Alors, yéyé, un morceau d'anthologie, on a même pu entendre la voix... très aiguë de Sabina, la choriste chanteuse, la choriste du moins des Satellites. Donc voilà, alors en presque... Alors non, ils sont de Paris, voilà ce que j'ai oublié de vous dire. Ils sont de Paris, les Vampas, de Paname. Et ils se sont formés, eux aussi, comme les rats, en 83. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même 27 ans. Donc en presque 30 ans de carrière, on peut pas dire que les Vampas soient passés inaperçus. Difficile, si ce n'est impossible, de faire un tour des pionniers du mouvement alterno sans passer par les Vampas, les auto-prétendus inventeurs du rock'n'roll. Trois petits points. Boutade sur laquelle on ne peut pas leur donner entièrement tort, toutes celles et ceux qui ont vu les Vampas en concert en conviendront certainement avec moi. Dès leur toute première scène, les Vampas y sont déjà hystériques et ils font leurs premières armes en grande partie grâce à l'association Paris Bar Rock, créée par Rascal et Renan, souvenez-vous, on en a déjà parlé précédemment. Et d'ailleurs, Rascal et Renan, à qui Pigalle a dédié une belle chanson. Les Vampas, au début, sont très influencés par le psychobilly en général et par les Cramps en particulier. Guitare saturée, contrebasse et bananes qui gigotent, c'est leur créneau de départ aux Vampas. Le yéyé punk, c'est pour plus tard, chaque chose en son temps, on y reviendra. En attendant qu'on y revienne, 1988, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques de Séoul et on va se commémorer ça tout de suite en compagnie des Ludwig von 88 comme l'année en cours, ça tombe bien, et c'est parti pour un petit 110 mètres haies à fond la caisse. Ouais, go. Hop. 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 Hop là, quelques derniers colibés, voilà, c'était donc 110 mètres et des Ludwig von 88, issu de Séoul 88, sorti en 88, ça fait beaucoup de 88, l'occasion était trop belle pour vous le passer. Donc c'était sorti à l'époque chez Bandage Productions et distribué par Dansteria. Alors, les Ludwig, c'est leur quatrième disque. Il y a un maxi 45 tours concept, comme tout d'ailleurs ce qui sortent discographiquement les Ludwig. Dès qu'ils sortent un disque, c'est un disque concept. Donc, maxi 45 tours concept qui sort la même année. Guerrier Balouba, voilà, c'est ça, en 88. Alors, petit rappel, les Ludwig, c'est donc de 83 à 2000, 17 ans. Donc, je vous avais déjà parlé des Ludwig la dernière fois, mais il n'y a pas de mal à se refaire du bien. Le fait qu'il s'appelle Ludwig von 88 n'a d'ailleurs rien à voir avec un hommage concernant un éventuel Beethoven vosgien, comme on pourrait le croire de prime abord. Si l'on considère, je vais vous expliquer, que le chiffre 8 correspond à la huitième lettre de l'alphabet, à savoir le H. Ça nous donne donc H-H. Et détrompez-vous, ça ne signifie pas non plus une double ration de shit pour tout le monde, car il s'agit bien, bel et bien, d'un acronyme nazi signifiant Heil Hitler. Arg ! Quoi ? Les Ludwig ? Un groupe nazi ? Bien sûr que non. Juste un groupe qui se fout ouvertement de la tronche de certains groupes d'extrême droite. Comme Légion 88, par exemple, pour mieux les ridiculiser. Parce qu'il faut préciser qu'une petite portion de la jeunesse de l'époque, celle qui, toute catégorie sociale confondue, soutient le mouvement alternatif et qui milite dans les réseaux antifascistes comme le SCALP, section carrément anti-Le Pen, on y reviendra certainement sur tout ça, un de ces quatre. Donc, cette petite portion de la jeunesse se confronte virulemment à une autre, encore plus petite portion de la jeunesse, radicalement nationaliste et fascistoïde, qui milite à la droite du Front National. Résultat, ça bastonne dans les rues, et parfois dans les concerts où les deux camps s'affrontent. Donc, du côté de l'extrême droite, des skinheads aux lacets blancs, comme leur teint et comme la race pure à laquelle ils croient appartenir, rebaptisés, guillemets, « boneheads », les têtes d'os, quoi. Pour leurs opposants, de gauche radicale, les quepons et les redskins, tiens, redskins, encore des poux rouges, rouges comme leurs lacets et leurs idées politiques tic-tic. Bref, deux tendances diamétralement antinomiques et totalement irréconciliables, mais pourtant issues du même mouvement skinhead anglais de la fin des années 60 et vite intégrées dans le mouvement alternatif français, qui se foutent violemment sur la gueule. Et pourquoi une telle divergence politique dans un même mouvement ? Alors ça, mystère pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette bataille rangée se focalise aussi autour de la Oi Music, à savoir du ska punkifié dans un même jus, dont voici un petit échantillon avec Tu la vioc, ce qui nous quepon. C'est toute la question. c'est le képi. Et oui, voilà, donc Skinou Kepon de Tu La Vioque, issu de leur deuxième album Q-Sec, Q comme la lettre, sorti en 88 chez Bolox Productions, distribué par New Rose. Alors, les Tu La Vioque, c'est leur deuxième et dernier album. Ils n'ont pas fait long feu, malheureusement. Le premier album est sorti en 87 et il s'appelle Desch à la Ch'touille. Ils viennent de Montpellier. Ils se sont formés en 84 jusqu'en 89, ça fait 5 ans, et ils se sont séparés en juillet 89 avec 200 concerts au compteur partout en France. Donc comme Tu La Vioque vient du même coin et a démarré en même temps que les Shérifs, ça aurait été dommage de passer à côté. D'autant plus qu'au-delà de leurs influences punk oi, Tu La Vioque fait plutôt dans la grosse gaudriole bien grasse et lourde de suggestions salaces et éthyliques. Point. Pour mémoire, leur premier album, donc Desch à la Ch'touille, qui contient des chansons de cul, oh, pardon, de salle de garde, c'est plus poli, qui contient donc une grosse bite rétractable de 38 cm qui se déplie en même temps qu'on ouvre la pochette, comme les livres de gamins. Donc, évidemment, ça ne passe pas inaperçu et ça défraie même les chroniques, comme on dit dans le jargon plumitif. Et leur deuxième album et leur dernier album, Q-Sec, donc consacré aux chansons à boire avec le même genre de pochette, sauf que le Zboob Mouse est remplacé par une bouteille de Jack Daniels de 95 cm de haut. Magnifique. Bref, le genre paillard dans toute sa splendeur et sa truculence, ce qui est d'ailleurs un genre bien à part, la chanson de salle de garde, la chanson à boire, la chanson paillarde quoi, qui est d'ailleurs donc un genre bien à part et une constante durable, que ça soit à partir de la très très vieille chanson française jusqu'au mouvement alterno et même au-delà. À noter aussi à propos de Tu La Vioque, qu'ils font partie, tout comme les Shérifs et les Garçons Bouchers, dont on parlait d'ailleurs la dernière fois, des tout premiers groupes à s'autoproduire eux-mêmes, si je puis dire. Puisque Mimi Gourdin, le chanteur gratteux, et Loulou La Vioque, le batteur, sont à l'origine de leur label, Bolox Productions, le bien nommé. Mimi Gourdin et Loulou La Vioque, deux bons pseudos pour deux bons bretons immigrés à Montpellier, ce qui va nous permettre de nous rapprocher légèrement de la Bretagne, où trois bonnes sœurs fraîchement sorties de leur couvent, si je ne m'abuse, c'est le couvent de Sainte-Tropos, c'est, regarde voir, Lucas, c'est marqué sur la pochette, fabriqué au couvent Sainte-Tropos les nonnes, voilà. Donc, toutes fraîchement sorties de leur couvent, les nonnes vont nous proposer un choix tout aussi fondamental que celui que nous a proposé Tu La Vioque, non plus entre skin ou quepon, mais bien entre frites et moules. Je veux parler donc évidemment des nonnes tropos. C'est parti!
Je me sens un peu saoul. Il faut que coûte que coûte, je Pitbull.
Perdu sur l'autoroute, il y avait un piège. C'était donc Fritmoul des Non-Tropos, issu de leur tout premier album, sur 3 au total, sorti donc toujours en 88. L'album s'appelle La Mission. Il est emballé dans un superbe joli carton, fabriqué donc au couvent, en direct. Et c'était sorti chez... toujours d'ailleurs, je crois, chez Bondage Productions. Ah si, réédité en 95 par Bondage encore et distribué par WMD. Donc les Non-Tropos, ils viennent de Paname. Alors leur histoire est un petit peu compliquée, mais bon, c'est pas forcément. Ils se sont formés en 86 pour arrêter en 89, puis ils ont repris en 95, hein, d'où la réédition de leur album, jusqu'en 97. Et entre les deux, ils vont devenir les VRP en 89, en fusionnant avec les Collabos. On aura l'occasion de revenir sur toute cette histoire. Donc l'histoire des Non est un peu compliquée, ils se forment, ils se déformeront en VRP pour se reformer après. Bref, tout ça, tout ça. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les Non-Tropos sont trois mecs déguisés en bonne sœur bretonne, avec cornette, chasuble et tout le bazar. Tout leur spectacle est écrit et raconte l'histoire de trois nonnes qui vont prêcher la bonne parole de Dieu à travers le monde et ça donne lieu à plein de rigolades, des super morceaux qui illustrent tout ça. Ils se retrouvent en Jamaïque, je vous en dis pas plus. Entre chaque chanson, on a droit en plus à une présentation, un petit sketch, une petite histoire. Et vraiment, vous l'avez entendu en même temps que moi, tout le monde se marre bien et ça fait du bien. En outre, les nonnes, elles aussi, apportent un truc encore inédit dans le mouvement alterno. À savoir, de l'acoustique pure et dure, dans une optique et des influences café-concert. Dans le même genre, on peut citer les Nains de Jardin aussi, tiens. Pour les nonnes, donc, pas besoin d'une grosse batterie, de guitare saturée et de prise d'électricité. Les nonnes montrent qu'on peut aussi faire du rock'n'roll en acoustique avec pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Alors Cyril Delmotte dit « Sœur Tropo » à la guitare folk, Neri Catino dit « Sœur Tropo » à la contrebassine, et oui, les nonnes sont les premières à importer la bassine en France. Et enfin, Laurent Vivien dit « Sœur Tropo » aux percussions avec deux balais à chiottes sur un attaché caisse et un petit piano d'enfant, et tous les trois à l'écriture et au chant. Ça suffit largement et ça n'empêche pas de bien envoyer le pâté quand même. Un groupe qui n'envoie pas moins le pâté, les amis, même s'ils sont électrifiés, c'est les Naufragés. On repart donc faire un petit tour à Montpellier pour tailler la route jusqu'à Saint-Malo. Ça fait beaucoup de détours tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez? On voyage beaucoup dans l'émission censurée. C'est parti mon kiki! Hey, de Montpellier à Saint-Malo!
C'est une chanson de blues en plus. Encore une histoire de train. Montpellier à Saint-Malo. Je suis amoureux d'une ligne de chemin de fer. Elle est fidèle puisqu'elle est tout en fer. Il ne tient qu'à moi d'acheter mon billet pour le grand voyage de Montpellier à Saint-Malo. De Montpellier à Saint-Malo. De Montpellier à Saint-Malo. De Montpellier à Saint-Malo. Quand nous sommes plus, je raconte à nous car à présent je préfère la prison.
La prison.
Plutôt que de rester sur le quai, sentir cette parfaite liberté sans avoir un centime en poche. Ouais, sans avoir un centime en poche. Sans avoir un centime en poche. Sans avoir un centime en poche. Un jour j'en aurai tellement marre. À Saint-Malo. Devant les tribunaux, je dirais que c'était un crime passionnel. Que c'était un crime passionnel. Ouais. De Montpellier à Saint-Malo. De Montpellier à Saint-Malo. De Saint-Malo à Montpellier.
Et voilà, de Montpellier à Saint-Malo, des naufragés, issus de leur tout premier album. Premier album d'une longue série, puisqu'il y en aura 8 disques au total. Donc le premier album s'appelle, comme le groupe, hein, Les Naufragés. Et il est sorti chez le studio de la Loge et réédité en 94 chez Mediavox plus Bandage et distribué aussi par WMD. Les Naufragés, ils viennent de Montpellier. Comme quoi, hein, on voyage beaucoup, on y retourne, et ils se sont créés, alors comme leur premier album sort en 88, mais le groupe existe depuis 86, et ce jusqu'à 2002. C'est en 2002 qu'ils se séparent, ça fait 16 ans au total, ce qui est pas mal du tout. Et avec Les Naufragés, c'est encore dans une autre direction que ça part, pardon, vu qu'ils fouillent plutôt dans la chanson de Marin Bretonne, matinée, de folk, celtique et de punk rock, à l'instar des Pogs. Bref, c'est du bon trad breton, français et même ricain à l'occasion de quelques reprises. Ils reprennent par exemple Edith Piaf, Henriquin, je me souviens plus très bien. Et puis il y a déjà aussi un petit peu d'accordéon dans les Naufragés. Par la suite, Les Naufragés, ça va. Là, ils sont trois, hein, c'est juste un trio. Mais par la suite, alors bah tiens, je vais y aller dans le bon sens. À l'origine, les Nauf donc sont un trio directement issu d'OTH et pendant OTH. En l'occurrence, alors avec Jean-Michel Poisson, Dispi, au chant et à l'harmonica, Philou Messina, à la basse, et Samil Crabbe, le frangin de Spi, qui vient du groupe punk rock Les Vierges, de Montpellier aussi. Samil Crabbe à la batterie. Et pour compléter tout ça, Didier Banon, d'OTH aussi, Dibebe à la gratte. Alors, sur la manière dont Les Naufragés vont évoluer scéniquement et musicalement, à savoir, on y reviendra de toute façon une autre fois, mais ce que je peux vous dire, c'est que le groupe du trio va partir carrément sur un combo de 6 ou 7 musiciens, avec de l'accordéon, des cuivres, ça mélange dans plein de choses, ouvert sur toutes les musiques du monde, et pas uniquement forcément, comme au début, sur la musique traditionnelle bretonne. Donc, pour l'instant, avant qu'on revienne un de ces quatre aux naufragés, ce qu'on aura largement l'occasion de pouvoir faire, on passe tranquillement, pour le coup, en 89, tout en restant dans les mêmes influences folk-punk poggiennes, c'est pas facile à dire, en compagnie des quatre chiens qui aboient, je veux dire, les Barking Dogs.
Back again. Then I'm
Et voilà, les Barking Dogs avec Going Out West, issu de leur premier album, Une Nuit Tranquille chez les Barking Dogs. L'album est sorti en 91, mais lui, le morceau qu'on vient de s'écouter, date bien de 89. Et l'album était sorti chez Woof Trade en 91, donc. Ça, je vous l'ai déjà dit. Les Barking Dogs, ça va être 4 albums au total, dont un excellent live. C'était un groupe franco-anglais. Il paraîtrait même qu'il y avait peut-être un Australien ou un Allemand dedans. Dans tous les cas, groupe qui chante surtout en anglais, avec quand même des textes en français, avec un super accent d'ailleurs anglais, c'est super à écouter. Donc les Barking Dogs se sont formés en 88 jusqu'en 96, ça fait 8 piges. Et dont je voulais vous parler, les Barking Dogs, figurez-vous que je ne le savais pas, je l'ai appris sur internet en fouillant un petit peu pour me documenter pour cette émission là. Comme les Garçons Bouchers, comme Tulavioc, comme tous ces groupes autoproduits, les Barking Dogs, ont toujours été autoproduits. Voilà, très grande découverte en ce qui me concerne, je ne le savais pas, je suis très heureux de vous l'apprendre aussi. Alors, ce qu'on peut dire sur les Barking Dogs, c'est que c'est dans la rue et dans le métro parisien, tout comme les Casse-Pieds d'ailleurs, à peu près au même moment. Et d'ailleurs, comme toute une kyrielle d'autres groupes zonards par la suite, que les Barking Dogs vont faire leurs premières armes. La rue, ça a ça de pratique, que le contact avec le public y est aussi direct qu'aléatoire, que ça permet de se lancer immédiatement dans le bain, de se confronter à un public qui n'a rien demandé, et en plus de faire tourner le chapeau, ce qui ne gâche rien. La rue, c'est pas une fin en soi, mais ça permet quand même, et surtout, de démarrer quelque part, de se faire connaître pour évoluer ensuite vers d'autres lieux et d'autres horizons, tout ça. Tout à l'arrache, quoi. Bref, la musique alternative peut se jouer partout et par tous les temps. Dehors, quand il fait beau et chaud, dans le métro, quand il fait moche et froid. L'ampleur du mouvement est telle que les salles, les cafés-concerts, les troxons et même les discothèques, parce qu'il y a des concerts aussi qui se font dans les discothèques. Donc tous ces concerts-là suffisent plus à contenir ni à satisfaire tous les groupes qui émergent et dont le besoin vital de liberté déborde aussi dans tout ce qui peut ressembler à un espace public. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis, mais moi, je trouve ça tout bonnement extraordinaire. Maintenant, on va nettement changer d'influence, en passant directos au reggae, avec Lolo Ganzaman, c'est le nom du morceau, et Bébé Doc, c'est le nom du groupe.
Wouhou ! Yo-yo, Lolo ! Bien le travail. Nous quand on est à la chaîne, y'a pas de problème, on se déchaîne. Mais l'homme urbain c'est cérébral. Si t'es pas dans ton assiette, insiste pas, faut que tu t'arrêtes. Une bonne grippe intestinale, payé par les acidiques, une semaine c'est fantastique. Et si t'as toujours pas le moral, remets ça et participe au sécu de la déficit. Et si t'as encore pas le moral, remets ça, quoi de plus normal. En Afrique, pareil c'est un rythme. L'article de la méthanique participe à son déficit. La bestulanique participe à son déficit. Arrêt de travail. La sécu de la bestulanique participe à son déficit. Arrêt du cul. La sécu de la bestulanque bouffe la tige les pédoncules. Arrêt mon bar.
Arrêtez votre charron, on touche pas. Arrêt mon bar.
Et si t'as encore pas le moral, remets ça, quoi de plus normal. C'est ma marita. La sécu, tu la mets sous la vie comme participe à ton déficit de Rastaman. Yo yo, lolo, yo yo, lolo. Rastaman, Rastaman, Rasta, Rastaman. Rastaman, Rastaman, reggae. Rastaman, Rastaman, Rasta, Rastaman. Rastaman, Rastaman, reggae. Et le black system, et les black systems. Les zones érogènes, même hétérogènes,
contraceptive. Fire, 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 fire. Pipi quand j'assois Brenda. Je niquerai la terre entière à grand coup d'un destroyer. Je niquerai la terre entière à grand coup d'un. Je niquerai la terre entière à grand coup d'un destroyer. Je niquerai la terre entière à grand coup d'un.
Arrêt, arrêt les frères, arrêt les sœurs sur ce joli gros coup de gong. C'était donc Lolo Ganzaman, petite pensée émue à Lolo Belcanto bien sûr. Lolo Ganzaman de Bébé Doc, issu de l'album Jazz sorti en 89 chez Boucherie Productions. Alors, les Bébé Doc, c'est leur deuxième album à ce moment-là, deuxième album sur quatre. Le premier album, Gaffa No Burn, est sorti en 87. Les Bébé Doc viennent de Paname et ils ont existé de 87 à 97. Ça fait 10 ans tout rond. Concernant Bébé Doc, non, il ne s'agit pas du groupe de Jean-Claude Duvalier, dictateur président d'Haïti de 1971 à 86 et fils et digne successeur de son père François, dit Papa Doc. Tout comme Tula Vioc, il s'agit bel et bien d'un groupe de punk oi paillard, du moins à l'origine. Fondé par Pierrot Sapu, au chant, qui deviendra un peu plus tard le deuxième chanteur des Garçons Bouchers, comme on l'a déjà dit la dernière fois, et par Drunk d'Alençon, qui formera les Gastéropodes Killers après Bébé Doc. Le groupe donc va souvent changer de musicien, c'est un peu compliqué à résumer aussi. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que Bébé Doc fait partie intégrante de la tribu Bouchère et que ces musiciens circuleront allègrement entre les Garçons Bouchers et Pigalle, entre autres. Dans tous les cas, en ce qui concerne le reggae dans le mouvement alterno, on peut vraiment pas encore dire qu'il soit un genre en particulier. C'est bien sûr Gainsbourg qui importe le reggae en France, avec son album « Aux armes, etc. » enregistré en Jamaïque et sorti en 79. Et peut-être même que Lolo Ganzaman est un clin d'œil à Lola Rastaquer de Gainsbourg. En tout cas, je sais pas, mais ça ferait un joli couple, je trouve. Mais 10 ans après, de 79 à 89, finalement, peu de groupes alternatifs reprennent le flambeau de Gainsbourg. À cette époque-là, on peut quand même citer les Babylon Fighters, une des toutes premières formations de reggae dub. Au texte d'ailleurs très très politisé, militant et carrément antifasciste. On en voit une petite image d'ailleurs grâce à Lucas sur internet. C'est dommage que vous ne pouvez pas voir, mais dans tous les cas, on peut trouver des images de Babylon Fighters. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des extraits musicaux, donc malheureusement, je vous en passerai pas cette fois-ci. Si, on peut s'écouter un extrait. Oh Lucas, chapeau. Alors là, moi je dis chapeau bas. Écoute... quel morceau tu nous proposes, Lucas ? Fuck you. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un reggae. C'est du ska. Voilà. C'est cool. Allez, Babylon Fighter, c'est cool. Check it out, check it out.
your fuck your baby. Fuck you, baby, because it's my way to tell you that I love you.
Yo, I hate you. C'était Fuck You par les Babylon Fighters. C'était absolument pas prévu, mais comme on en parlait, merci beaucoup Lucas pour le morceau de dépanne. On a trouvé ça sur internet. Donc faudra que je fouille un de ces quatre Babylon Fighters et je vous en passerai de toute façon bientôt, promis, juré. Voilà. Donc j'en étais. On parlait des Babylon Fighters. Donc alors ils font pas que du reggae dub, mais c'est quand même une des toutes premières formations. De reggae dub, les textes donc plutôt très politisés, mais donc voilà ce que je voulais vous dire. Hormis les Babylon Fighters, au niveau du reggae, c'est plutôt le désert à l'époque et très peu de groupes ne font d'ailleurs que du reggae et uniquement du reggae. Ça viendra seulement quelques années plus tard. Bien sûr, les Ludwig, Lamano, les Nonnes, Bébé Doc. Et même aussi un peu les Berus ou les Cadavres, par exemple, fouillent joyeusement dans le reggae, mais ne l'utilisent que pour illustrer certains de leurs textes de manière hilarante, juste pour la déconne ou le foutage de gueule complet. Même d'ailleurs pour se foutre carrément de la gueule du reggae variété, parce que le reggae, en 10 ans, bah, il a été quand même en France intégré très très vite fait par la variété. C'est peut-être pour ça que les groupes et musiciens du mouvement alternatif rejette le reggae comme le rap d'ailleurs aussi par exemple vraiment assez fortement au début donc pendant les années dont on est en train de parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bref, voilà, le reggae est bien présent, mais aucun groupe ne s'en contente encore comme d'un style en tant que tel, mais plutôt soit pour la bonne gaudriole, soit pour de la grosse dénonce, ce qui est déjà pas mal. Sinon, eh ben, l'émission va bientôt toucher à sa fin, les amis. Puisqu'on est toujours dans les influences et les couleurs aussi diverses que variées qui ont pu nourrir et enrichir le mouvement alterno, et que l'émission touche à sa fin, on va finir avec un dernier groupe pour ce soir, qui non seulement innove en apportant une fraîcheur gitane dans le paysage, sans pour autant verser dans le jobby-joba à la con, mais aussi dans une dimension commerciale qui aura des suites tragiques pour les négresses vertes en particulier, puisque c'est avec elle qu'on va se quitter, et des suites tragiques aussi pour le mouvement alternatif en général. Mais ceci est une autre histoire, chers auditeurs, chères auditeuses, que je vous réserve pour le prochain épisode de la série, et nous allons nous quitter un peu plus brièvement que d'habitude, mais par The Bilamouche des Négresses Vertes. Voilà ce que je vous propose. Bonne écoute! Oh, mais qui c'est? Je l'ai déjà dit. Je voulais faire un effet et j'ai foiré. Oh, une grosse mouche dans le studio. T'es super fort pour trouver des morceaux sur internet. T'as pas une tapette à mouche? C'est qui? Oh, c'est qui? Pousse-la. La mouche.
La mouche.
Hop là.
On m'appelle Zombie, ou c'est moi la mouche. J'suis pas trop crédible quand on me trouve louche. C'est qui les abîme en ouvrant la bouche sur deux gens.
Ha ha ha!
dans la soulée, je ressens pas les coupés. Scratchant du jeu, fonce dans la soulée, je ressens pas les coupés.
Moche. Et voilà, c'est la fin d'émission censurée, les amis. Et ben, j'espère que celle-là, elle vous a plu. J'ai mis un mois pour la faire. Alors, des émissions comme ça, je vous en réserve encore plein, parce qu'il y a plein de choses énormes à dire sur le rock alternatif, dans ses aléas en particulier. Donc, disons que je me suis engagé, ça n'engage que moi, hein, puisque à vous en faire une comme ça au moins une fois par mois. Voilà, donc c'est la fin d'émission censurée, la fin des années folles. On reprendra la prochaine fois de 88 à 89 parce qu'il se passe quand même vraiment beaucoup de choses ces deux années-là. Donc merci à vous d'avoir esgourdé émission censurée. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal, merci bien. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, fidèle au poste, mercredi 18-19h, juste après Propergol avec Sylvain Asselot. Gros bisous Sylvain. Émission censurée rediffusée dimanche de 22 à 23h. Vous pouvez écouter et télécharger l'émission, comme d'autres émissions de Radio Caraïbes, sur le fabuleux et très joli site de Caraïbes, www.rcm-radio.org. Vous pouvez aussi participer au forum, hein, n'hésitez pas. HTTP, sinon pour écouter les 44 premières émissions censurées, http://émissionscensurée.blogspot.com. Je reprends ma respiration, restez à l'écoute d'RCN, les amis. Le prochain direct, c'est l'Entre-Gothard avec la crise, 19h30. Vive le gothisme! Et en attendant que nous nous retrouvions la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis, comme à la fin de chaque émission censurée, vive la résistance, vive le rock libre, merci, bonsoir. Un peu court, on vous passe un bon morceau des Bérus, vachement récent, mais ciao les amis, à la semaine prochaine.